Chapitre 261. Le testament de Porthos. À Pierrefonds, tout était en deuil. Les cours étaient désertes, les écuries fermées, les parterres négligés. Dans les bassins s'arrêtaient d'eux-mêmes les jets d'eau, naguère épanouis, bruyants et brillants. Sur les chemins, autour du château, venaient quelques graves personnages sur des mules ou sur des bidets de ferme. C'étaient les voisins de campagne, les curés et les baillis des terres limitrophes. Tout ce monde entrait silencieusement au château, remettait sa monture à un palefrenier morne et se dirigeait, conduit par un chasseur vêtu de noir, vers la grande salle où, sur le seuil, Mousqueton recevait les arrivants. Mousqueton avait tellement maigri depuis 2 jours que ses habits remuaient sur lui, pareils à ces fourreaux trop larges dans lesquels dansent les fers des épées. Sa figure couperosée de rouge et de blanc, comme celle de la Madone de Vendique, était sillonnée par 2 ruisseaux argentés qui creusaient leur lit dans ses joues, aussi pleines jadis qu'elles étaient flasques depuis son deuil. À chaque nouvelle visite, Mousqueton trouvait de nouvelles larmes et c'était pitié de le voir étreindre son gosier par sa grosse main pour ne pas éclater en sanglots. Toutes ces visites avaient pour but la lecture du testament de Porthos annoncé pour ce jour et à laquelle voulaient assister toutes les convoitises ou toutes les amitiés du mort qui ne laissaient aucun parent après lui. Les assistants prenaient place à mesure qu'ils arrivaient et la grande salle venait d'être fermée quand sonna l'heure de midi, heure fixée pour la lecture. Le procureur de Porthos, et c'était naturellement le successeur de maître Coquenard, commença par déployer lentement le vaste parchemin sur lequel la puissante main de Porthos avait tracé ses volontés suprêmes. Le cachet rompu, les lunettes mises, l'atout préliminaire ayant retenti, chacun tendit l'oreille. Mousqueton s'était blotti dans un coin pour mieux pleurer, pour moins entendre. Tout à coup, la porte à 2 battants de la grande salle, qui avait été refermée, s'ouvrit comme par un prodige, et une figure mâle apparut sur le seuil, resplendissant dans la plus vive lumière du soleil. C'était D'Artagnan, qui était arrivé seul jusqu'à cette porte, et, ne trouvant personne pour lui tenir l'étrier, avait attaché son cheval au heurtoir et s'annonçait lui-même. L'éclat du jour envahissant la salle, le murmure des assistants et, plus que tout cela, l'instinct du chien fidèle arrachèrent Mousqueton à sa rêverie. Il releva la tête, reconnut le vieil ami du maître et, hurlant de douleur, vint lui embrasser les genoux en arrosant les dalles de ses larmes. D'Artagnan releva le pauvre intendant, l'embrassa comme un frère et, ayant salué noblement l'assemblée, qui s'inclinait tout entière en chuchotant son nom, il alla s'asseoir à l'extrémité de la grande salle de chêne sculptée, tenant toujours la main de Mousqueton qui suffoquait et s'asseyait sur le marchepied. Alors le procureur, qui était ému comme les autres, commença la lecture. Porthos, après une profession de foi des plus chrétiennes, demandait pardon à ses ennemis du tort qu'il avait pu leur causer. À ce paragraphe, un rayon d'inexprimable orgueil glissa des yeux de D'Artagnan. Il se rappelait le vieux soldat. Tous ses ennemis de Porthos, terrassés par sa main vaillante, il en supputait le nombre et se disait que Porthos avait fait sagement de ne pas détailler ses ennemis ou les torts causés à ceux-ci. Sans quoi, la besogne eût été trop rude pour le lecteur. Venait alors l'énumération suivante. Je possède, à l'heure qu'il est, par la grâce de Dieu, premièrement, le domaine de Pierrefonds, terre, bois, prés, eau, forêt, entourée de bons murs. Deuxièmement, le domaine de Bracieux, château, forêt, terre labourable, formant 3 fermes. Troisièmement, la petite terre du Vallon, ainsi nommée parce qu'elle est dans le Vallon. Brave Porthos. Quatrièmement, 50 métairies dans la Touraine d'une contenance de 500 arpents. Cinquièmement, trois moulins sur le Cher, d'un rapport de 600 livres chacun. Sixièmement, trois étangs dans le Berry, d'un rapport de 200 livres chacun. Quant aux biens mobiliers, ainsi nommés parce qu'ils ne peuvent se mouvoir, comme l'explique si bien mon savant ami l'évêque de Vannes, d'Artagnan frissonna au souvenir lugubre de ce nom. Le procureur continua imperturbablement. Il consiste, premièrement, en des meubles que je ne saurais détailler ici, faute d'espace, et qui garnissent tous mes châteaux ou maisons, mais dont la liste est dressée par mon intendant. Chacun tourna les yeux vers Mousqueton, qui s'abîma dans sa douleur. Deuxièmement, en 20 chevaux de main et de trait que j'ai particulièrement dans mon château de Pierrefonds et qui s'appellent Bayard, Roland, Charlemagne, Pépin, Dunois, Lahire, Augier, Samson, Milon, Nemrod, Urgande, Armide, Falstrade, Dalila, Rebecca, Yolande, Finette, Grisette, Lisette et Musette. Troisièmement, en 60 chiens formant 6 équipages répartis comme il suit. Le premier pour le cerf, le second pour le loup, le troisième pour le sanglier, le quatrième pour le lièvre et les deux autres pour l'arrêt ou la garde. Quatrièmement, en armes de guerre et de chasse renfermées dans ma galerie d'armes. Cinquièmement, mes 20 d'Anjou choisis pour Athos qui les aimait autrefois. Mes 20 de Bourgogne, de Champagne, de Bordeaux et d'Espagne garnissant 8 celliers et 12 caves en mes diverses maisons. Sixièmement, mes tableaux et statues qu'on prétend être d'une grande valeur et qui sont assez nombreux pour fatiguer la vue. Septièmement, ma bibliothèque composée de 6000 volumes tout neufs et qu'on n'a jamais ouvert. Huitièmement, ma vaisselle d'argent qui s'est peut-être un peu usée mais qui doit peser de 1000 à 1200 livres car je pouvais à grand-peine soulever le coffre qui la renferme et ne faisais que 6 fois le tour de ma chambre en le portant. Neuvièmement, tous ces objets, plus le linge de table et de service, sont répartis dans les maisons que j'aimais le mieux. Ici, le lecteur s'arrêta pour reprendre haleine. Chacun soupira, toussa et redoubla d'attention. Le procureur reprit. « J'ai vécu sans avoir d'enfant, et il est probable que je n'en aurai pas, ce qui m'est une cuisante douleur. Je me trompe cependant, car j'ai un fils en commun avec mes autres amis. C'est M. Raoul Auguste Jules de Bragelonne, véritable fils de M. le comte de la Fère. Ce jeune seigneur m'a paru digne de succéder aux 3 vaillants gentilshommes dont je suis l'ami et le très humble serviteur. » Ici, un bruit aigu se fit entendre. C'était l'épée de D'Artagnan qui, glissant du baudrier, était tombée sur la planche sonore. Chacun tourna les yeux de ce côté et l'on vit qu'une grande larme avait coulé des 6 épées de D'Artagnan sur son nez aquilin, dont l'arête lumineuse brillait ainsi qu'un croissant enflammé au soleil. C'est pourquoi, continua le procureur, j'ai laissé tous mes biens, meubles et immeubles, compris dans l'énumération ci-dessus faite, à M. le vicomte Raoul Auguste Jules de la Fère, pour le consoler du chagrin qu'il paraît avoir, et le mettre en état de porter glorieusement son nom. Un long murmure courut dans l'auditoire. Le procureur continua, soutenu par l'œil flamboyant de D'Artagnan, qui, parcourant l'assemblée, rétablit le silence interrompu. À la charge, par M. le vicomte de Bragelonne, de donner à M. le chevalier D'Artagnan, capitaine des mousquetaires du roi, ce que le dit chevalier D'Artagnan lui demandera de mes biens. À la charge, par M. le vicomte de Bragelonne, de faire tenir une bonne pension à M. le chevalier d'Herblay, mon ami, s'il avait besoin de vivre en exil. À la charge, par M. le vicomte de Bragelonne, d'entretenir ceux de mes serviteurs qui ont fait 10 ans de service chez moi et de donner 500 livres à chacun des autres. Je laisse à mon intendant Mousqueton tous mes habits de ville, de guerre et de chasse au nombre de 47, dans l'assurance qu'il les portera jusqu'à les user pour l'amour et par souvenir de moi. De plus, je lègue à Monsieur le Vicomte de Bragelonne mon vieux serviteur et fidèle ami Mousqueton, déjà nommé, à la charge par le dit Vicomte de Bragelonne d'agir en sorte que Mousqueton déclare en mourant qu'il n'a jamais cessé d'être heureux. En entendant ces mots, Mousqueton salua, pâle et tremblant. Ses larges épaules frissonnaient convulsivement. Son visage, empreint d'une vaste douleur, sortit de ses mains glacées, et les assistants le virent trébucher, hésiter, comme si, voulant quitter la salle, il cherchait une direction. « Mousqueton, dit d'Artagnan, mon bon ami, sortez d'ici. Allez faire vos préparatifs. Je vous emmène chez Athos, où je vais en quittant Pierrefonds. » Mousqueton ne répondit rien. Il respirait à peine, comme si tout, dans cette salle, lui devait être désormais étranger. Il ouvrit la porte et disparut lentement. Le procureur acheva sa lecture, après laquelle s'évanouirent, déçus, mais pleins de respect, la plupart de ceux qui étaient venus entendre les dernières volontés de Porthos. Quant à d'Artagnan, demeuré seul après avoir reçu la révérence cérémonieuse que lui avait faite le procureur, il admirait cette sagesse profonde du testateur qui venait de distribuer si justement son bien aux plus dignes, aux plus nécessiteux, avec des délicatesses que nul, parmi les plus fins courtisans et les plus nobles cœurs, n'eût pu rencontrer aussi parfaites. En effet, Porthos enjoignait à Raoul de Bragelonne de donner à d'Artagnan tout ce que celui-ci demanderait. Il savait bien, ce digne Porthos, que d'Artagnan ne demanderait rien. Et, au cas où il eût demandé quelque chose, nul, excepté lui-même, ne lui faisait sa part. Porthos laissait une pension à Aramis, lequel, s'il eut envie de demander trop, était arrêté par l'exemple de d'Artagnan. Et ce mot « exil », jeté par le testateur sans intention apparente, n'était-il pas la plus douce, la plus exquise critique de cette conduite d'Aramis qui avait causé la mort de Porthos? Enfin, il n'était pas fait mention d'Athos dans le testament du mort. Celui-ci, en effet, pouvait-il supposer que le fils n'offrirait pas la meilleure part au père? Le gros esprit de Porthos avait jugé toutes ces causes, saisi toutes ces nuances mieux que la loi, mieux que l'usage, mieux que le goût. Porthos était un cœur, se dit d'Artagnan avec un soupir. Et il lui sembla entendre un gémissement au plafond. Il pensa tout de suite à ce pauvre Mousqueton qu'il fallait distraire de sa douleur. À cet effet, d'Artagnan quitta la salle avec empressement pour aller chercher le digne intendant, puisque celui-ci ne revenait pas. Il monta l'escalier qui conduisait au premier étage et aperçut dans la chambre de Porthos un amas d'habits de toutes couleurs et de toutes étoffes sur lesquels Mousqueton s'était couché après les avoir entassés lui-même. C'était le lot du fidèle ami. Ses habits lui appartenaient bien. Il lui avait été bien donné. On voyait la main de Mousqueton s'étendre sur ses reliques qu'il baisait de toutes ses lèvres, de tout son visage, qu'il couvrait de tout son corps. D'Artagnan s'approcha pour consoler le pauvre garçon. « Mon Dieu, dit-il, il ne bouge plus, il est évanoui. » D'Artagnan se trompait, Mousqueton était mort. Mort comme le chien qui, ayant perdu son maître, revient mourir sur son habit.